Radio Public Santé, votre flash d'actualité.
Votre point sur l'actualité nationale et internationale avec la rédaction de Ripley News. Claude Varan. Bonjour Claude.
Bonjour à tous. Manifestation pro-palestinienne. Emmanuel Macron a tenu à condamner avec la plus grande fermeté les blocages dans les universités françaises. Le chef de l'État a affirmé que ces actions empêchaient le débat alors que plusieurs rassemblements et blocages ont eu lieu ces derniers jours sur des sites de Sciences Po ainsi que dans des universités, entraînant dans certains cas l'intervention des forces de l'ordre. Mort de Naël. La justice organise ce dimanche à Nanterre une reconstitution des faits ayant conduit au décès du jeune de 17 ans par un tir de police l'année dernière. Et justement, le fonctionnaire auteur du tir a été annoncé présent sur les lieux du drame qui ont conduit à des émeutes d'une intensité exceptionnelle, on s'en souvient. Justice, toujours une enquête pour violence en réunion avec arme. Elle était ouverte par le parquet d'Ajaccio après que des G2 aient été lancés sur Éric Zemmour. L'ancien polémiste d'extrême droite a été pris à partie lors de sa déambulation sur un marché en Corse hier. Sur des images vidéo, on voit le président du parti Reconquête frapper l'une des femmes qui l'attaquait. Bonne nouvelle pour Atos maintenant, les créanciers et les banques ont trouvé un accord pour refinancer le géant informatique français. En effet, le groupe fait face à de grosses difficultés financières et cherche à restructurer sa dette. Malgré sa situation, Atos n'obtiendra en revanche pas autant que demandé dans son nouveau plan d'affaires. Ce fut longtemps une émission emblématique de France Télévisions. Le groupe audiovisuel public a annoncé ce dimanche que l'émission des chiffres et des lettres serait supprimée de la grille dès la rentrée prochaine. L'émission, créée en 1965, était déjà passée d'une quotidienne à un rendez-vous bi-hebdomadaire en week-end, et ce depuis 2 ans maintenant. Et puis enfin, à l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre Pékin et Paris, le président chinois est attendu cet après-midi sur le sol français pour une visite d'État, la 3e dans l'Hexagone depuis son arrivée au pouvoir. Cette visite sera décomposée en 2 temps. La première journée sera consacrée à des discussions diplomatiques et à des cérémonies officielles, tandis que la journée du mardi sera plus intime et personnelle entre Emmanuel Macron et Xi Jinping, a indiqué l'Élysée. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
If love was a word, I don't understand. The simplest sound, 4 letters. Whatever it was, I'm over it now. With every day, it gets better. It gets better. Are you loving the pain? Loving the pain. And with every day.
mais serait-elle liée à celle du pénis en érection? Une récente étude japonaise s'est penchée sur différents facteurs pouvant être corrélés à la taille du pénis en érection. Ils ont notamment pris en compte la taille du nez, la taille générale des individus et leur poids. Pour leur recherche, ils ont étiré le pénis de 126 cadavres adultes âgés de 30 à 50 ans. Les résultats de statistiques ont montré que le facteur qui corrélait avec la taille du pénis était celle du nez. Concrètement, les hommes avec un plus gros nez ont un pénis 29% plus long que ceux qui ont un nez petit. Cette étrange étude pourrait faire sourire, mais elle semble indiquer que la longueur du pénis en érection n'est pas déterminée par la taille ou le poids d'un individu, mais déterminée avant la naissance par la génétique, comme l'est la taille du nez. Cette recherche fait suite à un précédent travail dans lequel des scientifiques avaient trouvé que l'âge était un facteur jouant sur la taille du pénis. La longueur de l'organe génital cessant d'augmenter à l'adolescence pour diminuer progressivement chez les hommes plus âgés. Cette étude singulière présente pour le moment des limites, car elle n'a été effectuée que sur des hommes japonais. Par ailleurs, s'agissant d'une étude de corrélation, cette recherche ne permet pas de tester l'hypothèse sur la ou les causes expliquant ce qui détermine la longueur du pénis en érection chez les hommes, ni sur ce qui explique le lien entre taille du nez et du pénis étiré.
Radio Public Santé.
La radio qui vous veut du bien.
Laisse-moi encore, laisse-moi pleurer, on s'en fout. Pousse-moi jusqu'au bord, je m'accrocherai à ton cou.
Tu tabasses mon cœur dans tous les sens. J'avoue, je joue un jeu dangereux dans tes hanches. De ta joue à tes lèvres, je balance. Tyrannie folle cadencée par l'insouciance. Je fais comme si demain rien à foutre. Qu'après ton corps, je changerai de route. Cette amertume, faudra qu'on y goûte. S'assaisonne sans qu'on se découpe. Et je te vois, je te sens, je te jure c'est pas marrant. Dans le vide tu me lances. Mais tu m'as pris tous mes sens, tous mes sens. Quand tu souffles, quand tu danses.
Tu mets la danse, tu as le feu, bébé, tu n'es plus à prendre. Après cette nuit, je n'ai plus de doute. Mon cœur s'emballe quand ton corps se voûte. L'été s'achève, mais j'ai bien envie d'une autre escale dans ton paradis. Et tes lèvres et tes hanches, tout mon cœur en manque quand sur moi tu te penches. Et je ris quand j'y pense, folie de nos corps en transe. Tu me mates, tu me danses.
Comme si demain rien à foutre. Qu'après ton corps je changerai de route. Je fais comme si l'histoire était courte. Mais dans mon âme j'avoue j'ai des doutes. Et je te vois, je te sens, je te jure c'est pas marrant. Dans le vide tu me lances. Mais tu m'as pris tous mes sens, tous mes sens. Quand tu zoupes, quand tu danses.
Votre chronique sociale, Cyril Château. bourdonnement, picotement ou parfois maux de tête, les troubles de l'audition sont souvent aussi bénins qu'ils sont passagers, ce qui ne doit pas nous empêcher d'être vigilants. Faisons d'abord un point sur les différents problèmes auditifs que vous pouvez rencontrer. Il y a d'abord les plus connus, les acouphènes. Ce sont des bruits qui partent de votre oreille pour ensuite s'étendre à votre tête. Ils conduisent à une déformation de la perception auditive et entraînent des sifflements, des grésillements et plus souvent des bourdonnements. L'hypoacousie, quant à elle, et comme son nom l'indique, se caractérise par une baisse de l'audition, comme si votre collègue de bureau vous parlait de très loin. À l'inverse, l'hyperacousie désigne une hypersensibilité au bruit. Le moindre petit son, comme le bruit d'une porte ou d'un moteur, peut entraîner une grande souffrance. Parmi nous, nombreux sont ceux qui se sont reconnus dans au moins une de ces situations. C'est normal, ces phénomènes sont courants et ne doivent pas vous inquiéter s'ils restent limités dans le temps. Si une de ces sensations dure jusqu'à 30 minutes, pas de danger. C'est après qu'il faut s'inquiéter car dans le cas d'un trouble de l'audition qui se prolonge toute une journée, un contrôle s'impose. Vous ne devez pas attendre pour joindre votre médecin traitant qui vous orientera, si besoin, vers un ORL. Un trouble de l'audition pris à temps, c'est l'assurance de limiter les séquelles dans le temps. Là où le phénomène est très dangereux, c'est lorsqu'il dure depuis 2 jours ou plus, car il peut devenir complètement irréversible et les seules solutions que pourra vous proposer la médecine seront alors palliatives, allant de l'appareil auditif à l'acupuncture dans certains cas précis. Pour éviter ces désagréments, il est déconseillé de s'exposer à un niveau sonore trop élevé. Veillez aussi, autant que possible, à limiter l'usage des casques audio que l'on retrouve souvent sur les PC et autres équipements high-tech.
La radio qui vous veut du bien, avec dans un bref instant le retour de vos chroniques santé. Et nous parlerons de votre chronique traitement. Ça sera juste après ceci, à tout de suite.
Unique, essentiel, irremplaçable. Grâce à toi, grâce à lui, je revis.
Le sang est un produit rare et précieux. Le don de sang est un acte généreux, solidaire et responsable qui permet chaque année de soigner 1 million de malades. Donnez votre sang.
C'était un message de l'établissement français du sang, www.dondusang.net.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé, la radio qui vous veut du bien.
Yeah. Monica Daguerreau.
L'arrivée de la ménopause entraîne de nombreux désagréments, mais s'il en est un plus pénible que les autres, ce sont bien sûr les bouffées de chaleur. Un handicap qui modifie le rythme de vie et qui arrive sans crier gare, au travail ou à la maison, impossible de les prévoir. Mais d'où vient ce phénomène? En réalité, tout vient des ovaires qui, produisant moins d'hormones, font apparaître ces bouffées de chaleur, parfois accentuées lorsque vous êtes stressé ou tendu. Et à chaque fois, c'est le même schéma, une sensation de chaleur envahit soudain le décolleté, le cou, puis monte au visage, une sensation qui dure entre 30 secondes et quelques minutes et qui sont souvent suivies de sueurs froides. Certaines femmes subissent cette gêne jusqu'à 20 fois par jour, ce qui se révèle très contraignant dans la vie quotidienne. Sachez cependant qu'il existe des traitements adaptés et que rien n'est définitif. Le traitement le plus efficace est le traitement hormonal substitutif de la ménopause, appelé aussi THS. Il ne se commence qu'après l'arrêt total des règles, mais attention, il n'est recommandé que si la qualité de vie est notablement perturbée. En effet, les indications sont très strictes et il présente des contre-indications suite aux différentes études montrant son implication dans le cancer du sein. Il doit donc être instauré à dose minimum et pour une durée la plus courte possible. Vous pouvez également avoir recours, en allant consulter votre praticien, à des progestatifs de synthèse, mais attention, là aussi, les contre-indications sont les mêmes qu'avec le THS. En cas de contre-indication des hormones, certains antidépresseurs peuvent vous aider à passer ce cap en agissant sur le système nerveux central. La dernière méthode, plus douce cette fois, consiste tout simplement à pratiquer une activité physique régulière. En effet, certaines études ont prouvé que cela pouvait diminuer les bouffées de chaleur et autres troubles climataires. Alors pourquoi s'en priver?
Vous écoutez Radio Public Santé. Radio Public Santé. La radio
qui vous veut du bien.
L'Organisation mondiale de la santé a récemment mis en lumière l'impact dévastateur de la solitude sur la santé, la comparant même à des facteurs de risque bien connus tels que le tabagisme, l'abus d'alcool, l'inactivité physique, l'obésité et même la pollution de l'air. En réponse à cette menace urgente, l'OMS a annoncé la création d'une commission internationale pour renforcer les liens sociaux. Selon le directeur général de l'OMS, l'isolement social et la solitude ont de graves conséquences sur la santé et le bien-être. Les personnes qui manquent de liens sociaux étroits sont les plus susceptibles de souffrir d'accidents vasculaires cérébraux, d'anxiété, de démence, de dépression, de suicide et d'autres maladies. La pandémie de Covid-19 a exacerbé ce problème en érodant les liens sociaux et en laissant de nombreuses personnes se sentir isolées et seules. Cette situation est particulièrement préoccupante chez les personnes âgées et les adolescents, avec des taux d'isolement allant de 5 à 15 et 25% respectivement. En France, en 2022, 11% des personnes de plus de 15 ans étaient en situation d'isolement relationnel, c'est-à-dire qu'elles n'avaient que peu ou pas de contact en dehors de leur foyer. Pour lutter contre ce fléau, la commission de l'OMS travaillera au cours des 3 prochaines années à élaborer des stratégies pour promouvoir les contacts sociaux. Elle examinera également l'impact des bons liens sociaux sur le développement économique et social des sociétés.
Radio Public Santé, c'est toutes les 6 minutes, un point sur votre actualité santé. Dans un instant, retrouvez votre chronique Sexologie. Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière du jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
Quand je veux rentrer chez moi, quand le ciel gris et la pluie me manque, je fais mieux quand je
pas.
Radio Public Santé, votre chronique sexologie. Docteur Damien Mascret.
C'est une bien étrange maladie qui a été décrite en 2001 par les sexologues. Le syndrome d'excitation génitale persistante. Attention de ne pas confondre avec la nymphomanie. Même si, pour soulager cette excitation, les femmes sont parfois obligées d'éprouver plusieurs orgasmes successifs. Le syndrome d'excitation génitale persistante se caractérise, selon la psychiatre Sandra Leibloom, qui l'a décrit pour la première fois, par la sensation quasi permanente d'avoir les organes génitaux en état d'excitation avec ou sans événement déclenchant. De plus, cette excitation se prolonge pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours, en dépit d'un ou plusieurs orgasmes. Le pire, pourrait-on dire, est que les signes d'excitation physiologique surviennent sans que la femme n'éprouve pour autant un désir sexuel, ni même une impression d'excitation psychique. Le plus étrange dans ce syndrome est que l'excitation sexuelle persistante est déclenchée non seulement par des stimulations sexuelles, ce qui est logique, mais aussi par des stimulations qui ne sont absolument pas sexuelles, voire même en l'absence d'une quelconque stimulation déclenchante particulière. Enfin, ces signes d'excitation sont gênants, non voulus et surgissent inopinément. En définitive, on comprend que les femmes touchées par ce syndrome en souffrent.
Merci de votre fidélité à l'écoute de la radio qui vous veut du bien. Et pour vous récompenser de celle-ci, nous allons passer à table et connaître toutes les vertus du raisin à consommer avec nous sans modération juste après cette pause.
Mon rêve, c'est de devenir championne de catch. Grâce à l'association Petit Prince, j'ai réalisé ce rêve. Je suis montée sur un ring et j'ai mis KO un catcheur professionnel, comme je mettrais KO ma maladie.
Pour que d'autres enfants malades réalisent leurs rêves et trouvent l'énergie de se battre contre leur maladie, soutenez l'association Petit Prince. Faites un don sur
petitprince.com.
Radio Public Santé, 50% actualité santé, 50% musique. Radio Public Santé,
la radio qui vous veut du bien.
Those walls I built, well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight, they didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing
S'il existe bien un fruit à consommer sans modération, c'est le raisin. Et après les explications que nous allons vous fournir, vous pouvez être sûr qu'il sera votre nouveau partenaire santé et bien-être. Rouge ou blanc, en fruit ou en jus, le raisin est disponible sous différentes formes et se consomme toute l'année. Et s'il s'avère être un aliment très apprécié par son goût, ses vertus ne se limitent pas à sa saveur. En effet, le raisin est le fruit de l'énergie par excellence. Véritable atout tonus, il est vivement recommandé en automne pour prévenir des petits maux hivernaux, car il est constitué de nombreux bienfaits énergétiques. Glucose et fructose, soit des sucres rapides facilement assimilables, les vitamines A, B et C, mais également des oligo-éléments tels que le calcium, le potassium, le fer ou encore le magnésium. Et non, vous ne rêvez pas, ce petit fruit ovale contient bien tous ses nutriments, mais ce n'est pas tout, c'est également un formidable antioxydant. Il est riche en polyphénols et donc sa consommation permet de prévenir votre système cardiovasculaire en le protégeant contre différentes maladies. Et pour ceux qui surveillent leur ligne, sachez que le raisin est peu calorique et participe activement à une bonne digestion. En effet, il possède des qualités diurétiques indéniables de par sa forte teneur en eau et la présence de fibres contenues notamment dans la peau et les pépins. Et si le raisin se veut un excellent partenaire santé, vous serez ravis, mesdames, d'apprendre qu'il répond aussi à des critères de beauté. Depuis quelques années, le raisin est devenu le nouvel ingrédient de prédilection chez de nombreux spécialistes en cosmétique. Mais pourquoi donc ? Et bien donc, comme expliqué précédemment, le raisin possède des polyphénols et ces derniers vont piéger les radicaux libres, comprenez la pollution responsable du vieillissement cutané. Bien plus performant que la vitamine E, il renforce le collagène et l'élastine de la peau. Mangez régulièrement du raisin et vous pouvez être sûr d'obtenir un teint éclatant et unifié. Mais pour cela, évitez de retirer les pépins du raisin car c'est ici que se concentre une grande majorité des polyphénols. Alors que ce soit en jus, en dessert ou en salade, n'hésitez pas à consommer du raisin. Mais attention, pour ceux qui auraient les intestins sensibles, le raisin est tout de même laxatif.
Radio Public Santé.
La radio
100% santé. 100% santé.
Conscience is clear.
Soit naturel, industriel, sanitaire ou terroriste, vous pouvez compter sur un allié. Un équipement supplémentaire pour votre sécurité qui tient dans votre main, votre téléphone. Grâce au dispositif FR Alert, si vous vous trouvez dans la zone concernée, vous recevez une notification en cas de danger, vous donnant des consignes pour vous mettre à l'abri, vous préparer, vous informer et vous protéger. FR Alert. Bien alerté, bien protégé.
Radio Public Santé, 50% actualité santé et 50% musique. Radio Public Santé,
la
radio qui vous veut du bien.
I thought I saw a man brought to life. He was warm, he came around like he was dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. My conversation has run dry. Illusion never changed into something real.
de près ou de loin les effets positifs qu'une bonne pratique sportive génère sur notre organisme. Mais saviez-vous que le sport permettrait aussi de diminuer le risque de maladies neurologiques? C'est en tout cas ce qu'affirment les résultats des recherches réalisées par le comité scientifique de la FRC, Fédération pour la recherche sur le cerveau, qui envisage le sport comme un véritable allié pour mieux vieillir. Explication du professeur Jacques Touchon, président du conseil scientifique de la FRC.
Il permet de conserver un capital musculaire important, de conserver des aptitudes à maintenir l'équilibre important, ce qui va éviter la chute, qui est un des handicaps très importants au moment où on vieillit. On sait aussi, et ça on l'a démontré dans notre équipe, qu'une pratique régulière d'une activité sportive jusqu'à un âge avancé permet de retarder le déclin cognitif lié à la maladie d'Alzheimer, par exemple.
Mais alors, que se passe-t-il concrètement dans votre cerveau? En vieillissant, votre masse musculaire cérébrale évolue. Elle est répartie de façon moins homogène, les vaisseaux sanguins cérébraux s'atténuent et la présence de neurotransmetteurs du cerveau, lui, diminue. En faisant de l'exercice, vous augmentez votre débit cardiaque. Ce débit cardiaque va alors permettre une meilleure circulation du sang jusqu'à votre cerveau. Conséquence, l'oxygénation cérébrale est améliorée, vous produisez même de nouveaux neurones grâce à l'action nutritive de l'oxygène dans votre cerveau. À l'arrivée, vos fonctions cognitives comme la mémoire ou encore l'apprentissage s'améliorent et vous vous protégez de pathologies neurologiques. Alors, le sport, un véritable médicament? Oui, mais à condition de le pratiquer correctement. Ainsi, privilégiez la marche à pied, facile, pas chère et si possible en groupe, puisque le groupe a une action stimulante sur le plan cognitif. Accompagnez le tout d'une alimentation saine et à vous la cure de jouvence cérébrale.
Radio Public Santé. C'est toutes les 6 minutes, un point sur votre actualité santé. Dans un instant, retrouvez votre chronique découverte. Radio Public Santé, la radio
qui vous veut du bien.
Jouer le faux héros au milieu des flammes, repartir à zéro pour un supplément d'âme. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire que tout ira mieux. Je mettrai la musique plus fort pour plus entendre dehors. Allez, viens. Jouer les beaux mots au milieu des femmes, le premier domino de ton cœur qui s'emballe. Je pourrais te regarder dans les yeux, te dire qu'avant c'était mieux, remettre la musique plus fort pour plus entendre nos remords. J'entendrai les bravos. Regarde dans les yeux, dire que demain sera mieux. Je chanterai toujours plus fort pour qu'on m'entende dehors. Allez, viens.
troubles du sommeil d'origine neurologique, le somnambulisme toucherait environ 10% de la population mondiale. Le somnambule, ou littéralement celui qui marche en dormant, est un individu endormi dont le cerveau est en état de sommeil, mais en partie seulement. Dans les cas les plus courants, le somnambule parle, seul ou avec son entourage, et peut même interagir avec son environnement. Si ses yeux sont grands ouverts, le regard du somnambule est totalement inexpressif, ce qui ne l'empêche pas pour autant d'éviter des meubles, ranger des affaires, discuter, manger, se laver, ou pourquoi pas manger sous la douche, tout ou presque a déjà été vu chez les individus somnambules. Mais attention, il existe différentes formes de somnambulisme et certaines sont loin d'être amusantes. En effet, ce trouble du sommeil peut avoir des conséquences graves aussi bien pour le somnambule que pour son entourage. On considère que si les crises de somnambulisme sont fréquentes, qu'elles durent plus de 10 minutes et entraînent l'individu dans des situations dangereuses, on a affaire à un somnambulisme à risque. L'exemple le plus fréquent est celui de l'adulte somnambule qui prend le volant de sa voiture, mais on peut aussi constater plus simplement un comportement maladroit et violent. Si la violence est très importante, on parle alors de somnambulisme de terreur, qui est la forme la plus aiguë du trouble du sommeil. Inconscient, le somnambule est dans un état d'extrême anxiété, court et agit de façon très violente en poussant des hurlements. Sa fréquence cardiaque, sa respiration et son activité musculaire augmentent. Comme dans une transe, l'individu est pris de gestes compulsifs tout au long de la crise et ne se souviendra de rien au réveil. Ce genre de somnambulisme peut se reproduire plusieurs fois par nuit, ce qui le rend d'autant plus dangereux. Sachez tout de même que si votre enfant ou votre conjoint connaît une crise de somnambulisme, faire en sorte de limiter ses déplacements, en fermant votre maison à clé par exemple, est un bon conseil, mais ne le réveillez qu'en cas de danger imminent, car il n'y a rien de pire pour un somnambule que d'être réveillé en pleine crise. Les cas extrêmes restant extrêmement marginaux, pas d'inquiétude si vous comptez des somnambules dans votre entourage ou si vous-même en êtes atteint. En revanche, si les troubles mettent en danger la santé du somnambule ou celle de ses proches, il faut absolument consulter un spécialiste des troubles du sommeil. Il cherchera avec vous une solution personnalisée, psychologique ou thérapeutique.
Pour plus d'informations sur votre actualité santé, consultez le site internet de Radio Public Santé et abonnez-vous gratuitement à la newsletter de notre rédaction www.publicsante.com.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there. Realize what you're not to do.